Καλώ ήρθατε στη IDLN. Bienvenue dans IDLN, l'émission des amoureux de la Grèce que vous retrouvez chaque premier et chaque deuxième jeudi du mois. Je m'appelle Hermione. Η Hermione στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί για μία ώρα ως τις 8. Nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 20h. Alors, je vous l'annonçais la semaine dernière, j'ai la chance d'accueillir ce soir dans les studios deux experts de la langue grecque. C'est l'évolution de la langue grecque qui va nous occuper ce soir pendant quasiment toute la durée de l'émission, bien sûr accompagnée de musique 100% grecque et 100% variée. Bonsoir Christina, bonsoir Gabriel.
Bonsoir
et merci beaucoup pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir, le sujet est vraiment intéressant. Alors Christina, on avait déjà entendu votre voix il y a quelques mois quand on avait fait en février une émission sur le carnaval. Vous nous aviez accordé ce plaisir de lire un texte écrit par une experte du carnaval de Patras, voilà. Et cette voix entraînante, je suis très contente de la retrouver ce soir. Merci beaucoup d'être venue. Alors, vous êtes donc linguiste par vos études notamment. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous présenter un peu plus en détail ce pourquoi vous êtes là et ce dont on va parler, l'évolution de la langue grecque, l'éternel débat entre la démotique, la langue démotique, et la katharev, ou ça la langue, on va dire, un peu plus pure, mais c'est vous qui allez nous en parler. Donc on va détailler un peu plus tout ça juste après. Ça va s'annoncer vraiment très très riche. Je vous propose pour le moment une petite pause musicale pour lancer cette émission avec ce titre que j'ai choisi pour vous pour introduire notre première partie avec vous, Gabriel. To parapono. À tout de suite sur IDFM.
Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα τα εκείνα που αγαπώ για αλλού ξεκίνησα. Όλα τα εκείνα που αγαπώ για αλλού ξεκίνησα. Στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα αναρκά. Δεύτερη ζωή δεν έχει.
Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez, vous écoutez IDFM, la radio du bien-être. Vous êtes dans l'émission IDLN, l'émission francophone des amoureux de la Grèce. On se retrouve chaque premier et chaque deuxième jeudi du mois. Alors pour les novices, le premier jeudi du mois, c'est l'agenda culturel grec en Île-de-France, comme vous avez pu l'entendre la semaine dernière avec une invitée exceptionnelle, Monica Cabasele, qui nous a présenté son album qui sortira le 16 juin. Vous pourrez écouter un titre d'ailleurs au milieu de l'émission de Monica pour vous donner envie d'aller à son concert. Mais ce soir, le thème qui va nous occuper, c'est l'évolution de la langue grecque. Alors, j'ai deux invités d'exception ce soir avec moi dans les studios d'Enghien-les-Bains d'IDFM. Gabriel Bombetsis, vous êtes d'origine grecque, vous êtes arrivé en France en 2020 pour faire un master en lettres classiques à la Sorbonne. Et cette année, vous avez commencé des études de doctorat à l'université de Lille pour traiter de la question de la richesse et de la pauvreté chez les auteurs de la seconde sophistique sous un prisme littéraire et sociologique. Alors pour des novices comme moi, comme peut-être beaucoup d'auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est la seconde sophistique et puis comment vous abordez les choses dans ces études ?
Oui, bien sûr. La seconde sophistique s'étend du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. Et les sophistes sont des rhéteurs qui enseignent la rhétorique et qui font aussi des conférences aux jeunes gens. Et ils vont d'une région à l'autre, en Italie, en Ionie, et ils donnent aussi des conférences.
À l'époque, du coup ?
Oui,
c'est ça.
À l'époque.
Déjà, ça se faisait. Oui, des conférences comme ça à travers les pays.
Oui.
Très bien. Christina Anagnostidou, alors comme je le disais, c'est la deuxième fois que vous nous faites le plaisir de venir dans les studios d'IDFM. Vous avez fait des études de lettres classiques à Athènes et vous êtes actuellement doctorante en philosophie à Paris. Vous pouvez nous dire deux mots sur le sujet de votre doctorat d'ailleurs, Christina ?
Ah oui, alors je travaille sur un commentateur d'Aristote qui s'oppose à Aristote.
Ah, un commentateur qui s'y oppose.
Qui s'y oppose à Aristote sur des questions physiques principalement. Et je vois alors comment il déconstruit le système aristotélicien.
D'accord, ah oui, donc c'est très pointu ou c'est accessible quand même il faut avoir des très bonnes connaissances de tout ça pour pouvoir comprendre ce thème ou c'est quand même généraliste
Bon, il faut quand même comprendre Aristote, ouais. Pour arriver à comprendre comment il déconstruit le système d'Aristote.
Bien sûr. Bon, peut-être on en reparlera dans une prochaine émission, Christina. En tout cas, vous êtes là. Alors, Gabriel, de votre côté, vous avez préparé une présentation de l'évolution de la langue grecque depuis fort longtemps. Et Christina, vous, vraiment un sujet spécifique sur le débat voilà, mm-hmm. entre la langue démotique, qui est la langue un peu plus populaire, un peu plus parlée, et ce qu'on appelle la katharev. Vous, ça, comment on peut la traduire en français, du coup, la katharev, ou c'est la langue pure.
C'est la langue pure.
Pure, c'est ça. Pure. Voilà, puriste. Un peu plus soutenue, puriste, oui. Mm-hmm. Qui se rapproche plus du grec ancien, mm-hmm. Qui est parlé, à ma connaissance, plutôt, voilà, dans des registres peut-être politiques, journalistiques, littéraires, mais bon, un peu moins au quotidien. En tout cas, moi, je parle rarement de katharev, ou ça, avec ma famille, par exemple. Mais on en parlera tout à l'heure. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Gabriel, qui allez nous parler donc de l'évolution de la langue grecque. J'avais choisi, comme je le disais, ce titre pour ouvrir cette émission. Donc, vous allez pour commencer votre présentation nous parler d'un prix Nobel de littérature, un poète qui a été mis en musique par Theodorakis, mais aussi Manos Hadzidakis, qu'on vient d'écouter. Donc, n'était pas anodin. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette référence, Gabriel ?
Alors, permettez-moi de commencer cette analyse que je voudrais vous présenter sur la langue grecque. Par ce qui a été dit par Odysseus Aselitis, justement lors de la remise du prix Nobel en 1979.
De littérature donc, hein, prix Nobel
oui,
de littérature évidemment.
Oui, exactement. Je cite Aselitis, « Il m'a été donné, chers amis, d'écrire dans une langue qui n'est parlée que par quelques millions de personnes, mais une langue parlée sans interruption, avec fort peu de différences, tout au cours de plus de 2500 ans. Cet écart spatio-temporel, apparemment surprenant, se retrouve dans les dimensions culturelles de mon pays. Son aire spatiale est des plus réduites, mais son extension temporelle infinie. Si la langue n'était qu'un simple moyen de communication, il n'y avait pas de problème. Mais il arrive parfois qu'il soit aussi un instrument de magie. De plus, dans ces longues cours des siècles, la langue acquiert une certaine manière d'être. Elle devient un autre langage, et cette manière d'être oblige. »
Fin de citation, donc.
Oui, fin de citation, merci. Chaque langue constitue un moyen de communication, mais également, et ça c'est le plus important, élévectrice d'une civilisation. Le philosophe allemand Heidegger soutient que le langage est la maison des lettres. La langue est une valeur, celle qui donne une chance à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on ressent, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on crée. Ou comme l'a formulé le professeur de l'Université d'Athènes, Vassilios Vertoudakis, dans un podcast, la langue est notre apparence physique immatérielle. Ça, c'est très important de le saisir. On passe à la langue grecque. Son importance réside dans son ancienneté, ainsi que dans la qualité de monuments littéraires qui ont été produits dans cette langue. C'est la tragédie, la comédie, la philosophie, l'étude de la langue, c'est-à-dire la linguistique en termes modernes, qui sont nées en Grèce ancienne. Un autre aspect très important, c'est la continuité de la langue grecque. C'est impressionnant de constater qu'un grand nombre de mots s'utilisent depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ayant le même sens ou un sens légèrement modifié. On peut donner comme exemple les mots thalassa, la mer, uranos, les ciels, yi, la terre, arapo, aimer. Il y a beaucoup d'autres exemples.
Et ça, vous voulez dire, c'est des mots qui étaient déjà au tout début de la langue grecque dans l'Antiquité,
oui,
qui
oui.
n'ont pas été modifiés.
Oui, c'est ça.
Et c'est vraiment quelque chose, d'après vous, de spécifique à la langue grecque qu'on retrouve rarement oui. dans les autres langues.
Oui, oui, c'est ça. Il y a des mots qui s'utilisent depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, avec le même sens ou avec un sens un peu modifié. Et c'est très, très particulier.
Et y compris en démotique, hein, d'ailleurs. Pas seulement en katharevus, en langue puriste. Oui.
Pour retrouver les origines de la langue grecque, il faut remonter au moins 3500 ans en arrière, quand dans le palais mycénien, les linéaires B s'utilisaient pour des raisons administratives et pratiques.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le linéaire B, Gabriel ?
Merci pour la question, la possibilité de clarifier ce qu'on entend par linéaire B. Le linéaire B est la première écriture pour laquelle on peut dire qu'elle est vraiment grecque. Mais faites attention, on parle d'écriture et pas d'alphabet. Elle a été déchiffrée par l'architecte Michael Ventris et l'helléniste John Chadwick au début des années 50. Il s'agit d'une écriture mixte. D'une part, chaque lettre représente une syllabe et d'autre part, elle contient des idéogrammes. Cette écriture est un usage entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ.
1700 et 1200, hein, c'est ça ?
1500.
D'accord.
1500.
Ok.
Parce que les premières tablettes de linéaire B datent de 1500 ans.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait à l'époque, mais qu'on n'a plus aujourd'hui, ce linéaire B, hein, on est d'accord.
Et juste une remarque. Avant le linéaire B, dans la Crète minoenne, en gros, de 1900 en 1500 avant Jésus-Christ, c'est le linéaire A qui s'utilise. Mais malheureusement, cette écriture n'a pas encore été décryptée. Du coup, elle pourrait être grecque, mais on ne peut pas le savoir.
Donc ça, c'était quelque chose qui était en parallèle de l'alphabet ou avant l'alphabet ?
C'était avant l'alphabet.
D'accord.
C'était avant l'alphabet. C'est le linéaire A, après c'est le linéaire D'accord. B qui est décrypté, et après c'est l'alphabet.
Et ça, linéaire A, linéaire B, c'est des dénominations récentes.
Oui,
on
oui,
a appelé ces écritures
oui,
comme
oui.
ça récemment pour
ces études. Ce sont des dénominations du XXe siècle.
D'accord.
Pour ce qui est de la période allant du XIIe jusqu'au IXe siècle avant Jésus-Christ, les spécialistes parlent de siècle obscur. La raison en est que pour ces siècles, on ne dispose pas d'attestations écrites. Mais qu'est-ce qui se passe au IXe siècle ? Les Grecs obtiennent leur alphabet. C'est la période du commerce. Les bateaux grecs parcourent les mers de la Méditerranée et arrivent jusqu'à la Phénicie. Et là, ils adoptent l'alphabet des Phéniciens.
Alors, est-ce que cet alphabet ressemble à celui que nous connaissons maintenant, du coup ? L'alphabet grec, évidemment ?
Oui et non. Cet alphabet ne contenait pas de voyelles,
ah,
l'alphabet phénicien.
D'accord.
Ce sont les Grecs qui ajoutent les voyelles et certaines consonnes en inventant les premiers alphabets complets. Il est bien connu que par l'intermédiaire des Grecs, l'alphabet des habitants de Chalcis est transmis aux Étrusques et puis aux Latins, ce qui explique les similitudes entre l'alphabet latin et l'alphabet grec. Il faut aussi noter que d'une région à l'autre, l'écriture de certaines lettres présentait des petites différences. C'est en 403 avant Jésus-Christ que les Athéniens, et par la suite tous les Grecs, adoptent un alphabet uniforme, ce qu'on utilise même aujourd'hui.
D'accord.
Après, on passe au 8e siècle, qui est le siècle d'Homère.
Donc toujours avant Jésus-Christ.
Oui, oui, bien sûr. C'est celui qui a relaté les premiers textes littéraires de l'Europe. C'est le père de la littérature européenne. La poésie a été orale à ses débuts. Et la langue d'Homère est une langue poétique qui comprend plusieurs éléments artificiels. Ces éléments servent juste l'objectif poétique, tel que la construction du vers métrique. Homère constitue donc un cas à part.
Et alors, est-ce que en Grèce antique, on parlait une seule et même langue ?
Non, et merci pour cette question parce qu'il faut le clarifier. Non, et en Grèce ancienne, il n'y a pas une langue grecque uniforme, mais des dialectes différents. Bien sûr, les personnes utilisant les différents dialectes se comprennent entre eux, et il y a une conscience linguistique commune. En fait, il y a 4 dialectes. On a les dialectes ionien-attique, qui est utilisé surtout en Attique, en Ionie et ailleurs. L'éolien, qui était parlé en Éolie, dans la partie aussi nord-ouest de l'Asie mineure, en Thessalie, sur l'île de Lesbos et ailleurs. Les Dorians, employés en Épire, en Crète, dans le Péloponnèse, mais aussi ailleurs. Et enfin, l'Arcado-Chypriote, qui, comme l'indique son nom, est parlé en Arcadie et à Chypre.
Ça, c'était donc à l'époque d'Homère.
C'est juste après Homère.
Juste après, d'accord.
C'est à partir de l'époque archaïque qui commence en 750 avant Jésus-Christ.
D'accord.
Et jusqu'à l'époque classique, à peu près, qui l'époque classique se termine avec avec Alexandre. Alexandre, c'est à peu près en 334 qui commence sa campagne en Asie mineure. C'est jusqu'à cette époque.
D'accord.
Il est très important aussi de souligner qu'en Grèce ancienne, il y a des dialectes littéraires. Qu'est-ce qu'on entend par dialecte littéraire ? C'est que chaque genre est écrit au dialecte du genre. Par exemple, la poésie mélique, sous-genre de la poésie lyrique, est écrite en dialecte éolien. Sappho, la poétesse lyrique de Lesbos, qui a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, célèbre en dialecte éolien l'amour. Peut-être comme personne ne l'a fait. C'est quoi l'amour, en fin de compte? C'est un reptile doux amer et incontrôlable. Glucou pikron amakanon opeton. Et je prononce les grecs avec la prononciation erasmienne qui est utilisée en Europe, hors de la Grèce.
Oui, c'est ça, hors de la Grèce. Un grand débat aussi.
On va parler de ça peut-être par la suite. Nous sommes transportés en Ionie, au centre de l'Asie mineure, où les premiers philosophes font leur apparition. En dialecte ionien, ils tentent d'expliquer le monde et les phénomènes naturels. Et après l'Ionie, c'est bien sûr Athènes, qui tient les rênes avec Socrate, les philosophes qui n'hésitaient pas à avouer sa petitesse devant l'immense connaissance de l'univers et de la providence divine. Il disait, et cette phrase de Socrate est très connue, vous la connaissez sans doute, « Je sais que je ne sais rien. En oida oti uden uden oida. »
Alors, on a parlé de philosophie, de poésie. Qu'en est-il du théâtre ?
Le théâtre est grec, également né à Athènes, qui est l'école de la Grèce, comme les formules Périclès dans l'Oraison funèbre, prononcées à la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse. Les pièces d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide,
d'Eschyle,
s'écrivent en dialecte attique pour ce qui est des parties dialoguées, tandis que les parties chorales sont écrites en dialecte d'Orient. Mais les spectateurs, qui sont principalement des Athéniens, comprennent aussi bien les dialectes attiques que le dialecte d'Orient. Et c'est intéressant de comprendre comment Hérodote, le père de l'histoire d'après Cicéron, Pater Historiae, définit l'hellénisme. Il consiste à avoir le même sang, la même langue, la même religion, ainsi que les mêmes mères. Hérodote écrit en ionien. Pourquoi ? Parce que le dialecte ionien antique avait été établi comme dialecte du genre historique. Avant Hérodote, il y a des logographes, qui sont des auteurs en prose qui se trouvent à la périphérie de l'histoire et qui écrivent en ionien. Donc Hérodote suit cette tendance. À partir du 5e siècle, apparaissent les sophistes, qui ont été beaucoup critiqués par Platon. Et ces premières, les sophistes, offrent une formation littéraire, linguistique et rhétorique de haut niveau aux jeunes Athéniens. Dans son éloge d'Hélène, le sophiste Gorgias, un des sophistes les plus importants, décrit ainsi la puissance du discours. Je cite Gorgias. « Le discours est un tyran très puissant. Cet élément matériel d'une extrême petitesse est totalement invisible, porte à leur plénitude les œuvres divines. Car la parole peut faire cesser la peur, dissiper les chagrins, exciter la joie, accroître la pitié. » Fin de la citation. Et petit à petit, après l'époque classique, on passe à l'époque hellénistique, et à l'époque qui commence juste après la mort de celui qui a marqué de manière indélébile l'histoire grecque. C'est bien sûr Alexandre le Grand. Il a fait de la langue grecque la lingua franca, comme l'on dit, la langue internationale de l'époque, comme l'est l'anglais aujourd'hui.
Eh ben, je crois que ça nécessite un approfondissement. Je suis très contente parce que c'est rare que les invités me proposent des titres, des chansons à diffuser. Donc merci pour votre sélection.
C'est un plaisir.
Vous avez proposé « Il valse ton hamoyellon », c'est ça, la valse des sourires.
Oui, de Hatzidakis.
De Hatzidakis. Alors on va écouter ça tout de suite et puis on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'évolution de la langue grecque sur IDFM.
Thank you.
Bonsoir à tous. Vous écoutez IDLN, l'émission francophone des amoureux de la Grèce, chaque premier et chaque deuxième jeudi du mois. Nous étions transportés par les propos de Gabriel qui nous dresse un panorama de l'évolution de la langue grecque ce soir, avant de parler du débat entre la langue démotique et la langue puriste. Alors Gabriel, donc vous avez commencé à nous dresser ce panorama. Nous nous sommes arrêtés juste avant cette petite pause musicale à l'époque hellénistique, après la mort d'Alexandre le Grand, quand le grec était un peu l'anglais d'aujourd'hui, la langue internationale. Alors jusqu'où est-ce qu'on parlait grec à ce moment-là?
En fait, toute la partie orientale du monde, jusqu'à l'Inde, était hellénisée. Et bien évidemment, elle parlait grec. Les Grecs de l'époque s'appellent Koiné, qui ne signifie rien d'autre que langue commune, parce que cette langue est parlée par tout le monde, entre guillemets. Il s'agit d'une forme simplifiée du dialecte attique. La raison de la prédominance du dialecte attique est que la cour macédonienne l'avait adopté. Les Grecs de cette période, il faut le souligner, est plus proche du grec moderne que du grec de l'époque classique, à la fois au niveau du vocabulaire et de la prononciation. Et c'est très intéressant ça. Vous savez qu'après la mort d'Alexandre, l'Empire est divisé en royaumes qui sont gouvernés par des généraux d'Alexandre. La Grèce, mais aussi beaucoup des régions des royaumes hellénistiques, sont progressivement soumises à Rome. Mais les Romains des couches supérieures sont bilingues. Ils parlent latin et grec. Les Grecs est la langue des lettrés, comme les Français l'étaient lors du siècle précédent. Il y a une maxime assez caractéristique d'Horace. Je l'ai dit en latin et après je l'ai traduit. Grecia capta ferum victorem capit, qui signifie la Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur. Et la question est comment? Par les rayonnements de sa civilisation. La langue grecque, le grec, est aussi la langue des évangiles. La constatation faite par le père de la linguistique grecque, Georgios Chatzidakis, est impressionnante. Si le Nouveau Testament contient à peu près 4900 mots, la moitié de ces mots, c'est-à-dire 2280, sont utilisés par les Grecs d'aujourd'hui aussi. Et les autres, à peu d'exception près, sont au moins compréhensibles par tout le monde. C'est impressionnant. Christina va nous parler en détail de la question linguistique à l'époque moderne, mais il faut mentionner que les débuts de ces phénomènes sont repérés dans l'Antiquité. Depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, et surtout du 1er siècle après Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, on remarque une tendance à imiter les Grecs de l'époque classique. Ce mouvement a pris le nom d'atticisme. Pourquoi? Parce que c'est les dialectatiques qu'on essaye d'imiter. Cela crée une dichotomie. Dans la littérature, on utilise les dialectatiques, alors qu'à l'oral, c'est la koiné qui est employée.
Alors Gabriel, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur la prononciation du grec ancien? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi-même, j'avoue, j'ai arrêté d'étudier le grec ancien en troisième parce que mes oreilles souffraient un peu de cette prononciation qu'avaient les professeurs de lettres classiques au lycée, là où on l'apprenait, en France en tout cas. Et j'ai vraiment, j'ai cru que tout le monde parlait comme ça. J'ai eu un flash quand je suis allée faire un échange avec des lycéens de Grèce et que j'ai assisté à un cours de grec ancien en Grèce où effectivement il n'est pas enseigné du tout de la même façon au niveau de la prononciation. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer, Gabriel, à ce sujet?
Oui, bien sûr. C'est vrai que partout, hors de la Grèce, on lit le grec ancien avec la prononciation erasmienne. Ce n'est pas le cas en Grèce.
Donc c'est celle de la France, hein, celle que les professeurs de la classique
utilisent. Bien sûr, c'est le cas aussi de la France. Erasme, comme vous le savez, est un des plus grands humanistes d'origine néerlandaise qui a rédigé en 1528 un traité qui s'appelle « Sur la prononciation correcte du latin et du grec ». C'est sur ces traités d'Erasme qu'on se base pour recomposer, pour reconstruire la prononciation du grec. Ces remarques, je vais donner un exemple peut-être. Mm-hmm. Il a lu dans un texte que la brebis émet le son « vi ». Ça se prononce « vi » en grec moderne, mais on sait que les brebis « belles », elles font « b ». Et c'est comme ça qu'on a reconstruit.
Alors, voilà, vie avec un vita ou un bêta, justement, oui, dans l'alphabet.
C'est ça. Et ita, on suppose qu'ita s'est prononcé e, e, comme une langue, et pas comme un, comme, et pas comme un, comme un grec moderne, ita, i.
Et donc, se prononçait à l'époque. Donc,
oui, oui, à l'époque. C'est ça. À l'époque, en Grèce ancienne. Mmh. Et les Grecs avaient également une intonation musicale, comme c'est le cas aujourd'hui de chinois, qui se fondait, cette intonation musicale se fondait sur l'alternance entre voyelles brèves et voyelles longues. Les voyelles longues, telles que l'oméga ou l'éta, avaient une durée plus longue que les voyelles brèves, comme l'omicron et l'epsilon. Cette manière de prononcer les Grecs commence à changer déjà à partir de l'époque hellénistique. Comme l'on a dit, la langue est avant tout un moyen de communication. Et pour faciliter la communication, les locuteurs qui utilisent la langue grecque dans tout le monde la simplifient petit à petit. On peut passer au monde byzantin.
Juste, Gabriel, juste pour que je sois bien sûr de comprendre. Oui. Donc, en fait, ceux qui le prononcent le grec ancien correctement, en fait, ce ne sont pas les Grecs, alors. Ou alors, ils le prononcent d'une façon qui était parlée à une certaine époque et les autres occidentaux d'une autre époque.
En fait, à partir de l'époque hellénistique, c'est l'époque de, après la mort d'Alexandre le Grand, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas grecques et qui parlent les grecs.
Ah, c'est pour ça, d'accord.
Du coup, petit à petit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent les grecs, on commence à simplifier les langues pour être plus facile, entre guillemets. Parce que ce ne sont pas seulement les Grecs, ce sont aussi beaucoup d'étrangers qui parlent en grec.
Donc le fameux « vi » ou « bê », c'est quand même « bê » qui était dit à l'époque et donc qui est repris par les professeurs de grec ancien hors de la Grèce.
On peut donner un autre exemple. Oui. À l'époque, il y a aussi le phénomène qu'on appelle en linguistique les iotacismes. Mm-hmm. Et avant cette époque, on prononçait les différents « i » de façon différente. Ah. Et à cette époque, on commence à prononcer tous les « i » de la même façon, « i », comme en grec moderne aujourd'hui.
Ah oui, c'était ça les différences, les similitudes avec le chinois, effectivement, où des sons qui nous paraissent identiques. Et en fait, il y a quelques subtilités.
La comparaison avec le chinois, c'était parce qu'il y a un grec ancien, il y avait une intonation musicale comme c'est à peu près un chinois.
D'accord. Les Français diraient en grec moderne aussi, mais plus musical qu'en français, en tout cas. D'accord. Je vous laisse continuer, pardon.
Et on passe au monde byzantin. Un monde se couche, un autre s'élève. Le monde byzantin s'étend du 4e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. C'est le monde des empereurs et des saints. Le monde byzantin était la partie orientale de l'Empire romain. À la mort de l'empereur Théodose en 395 après Jésus-Christ toujours, l'Empire romain était divisé en Empire romain d'Occident, qui a pour capitale Rome, et un empire romain d'Orient dont la capitale est Constantinople. Au cours du 6e siècle après Jésus-Christ, le grec sera établi comme la langue officielle de l'empire byzantin. Avant cette époque, on utilisait à la fois les latins et les grecs. D'ailleurs, comme le formule le penseur néoplatonicien Georges Gémiste, dit Platon, qui a vécu au 14e siècle après Jésus-Christ, nous sommes d'origine grecque, comme la voix et l'éducation ancestrale l'attestent. Au début du 6e siècle après Jésus-Christ, Romanos le Mélode compose l'hymne Akatiste. Il s'appelle Akatiste parce qu'on ne s'assiette pas tant qu'il est chanté.
Alors on retrouve le même sens qu'Athistos, qui est assis en grec moderne, hein, c'est ça?
Oui, c'est vrai. C'est un mot qu'on utilise aussi en grec moderne, Athistos. Chaque ode de cet hymne se conclut avec l'exclamation « Réjouis-toi, épouse inépousée ». L'épouse inépousée n'est autre que la mère des dieux. C'est un oxymore, en fait. J'ai recours à cet exemple parce qu'il s'agit d'un hymne qui est même aujourd'hui chanté dans les offices de l'Église orthodoxe. Cela montre quoi ? Cela montre que la tradition byzantine n'est pas morte. La division linguistique qui a été remarquée durant le 1er siècle après Jésus-Christ se poursuit pendant l'époque byzantine. D'une part, ce sont les savants qui utilisent à l'écrit une langue classicisante, et d'autre part, à l'oral, on utilise la langue populaire. Mais vers la fin de l'époque byzantine, la langue populaire commence à être employée dans certaines formes de littérature, comme dans les romans érotiques. Ces romans s'inspirent des romans de chevalerie européens. Cette bifurcation linguistique amènera progressivement à la langue populaire. Mais la question linguistique ne tardera pas à apparaître de nouveau, et c'est Christina qui va nous en parler en détail.
Merci pour ce panorama, Gabriel. C'était vraiment très intéressant. Je dois avouer que c'est rare que je puisse écouter 100% de ce que disent mes invités, parce que parfois je suis un peu perdue, parfois je suis dans la technique, mais alors là, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale à nouveau avant de vous retrouver, Christina, pour nous parler de ce fameux débat entre la langue démotique et la langue puriste. Je vous propose d'écouter une chanson mise en musique par Mikis Theodorakis. Vous savez mieux que moi qui a écrit « Toperiali », les paroles.
C'est Georges Seferis.
C'est ça. Autre les deuxièmes... prix Nobel. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
À tout de suite sur IDFM.
Υψα σα με το μεσημέρι, μα το νερό γλυκό. Υψα σα με το μεσημέρι.
Quelle magnifique chanson pour lancer la deuxième partie de cette émission. Alors, hors antenne, on a discuté avec les invités. Alors, je suis désolée, j'ai dit une grosse bêtise. La deuxième chanson, ce n'est pas du tout Vals ton Hamoyelon,
c'est... C'est au Vals ton Hamoyelon en Iran.
Oui, donc rien à voir. Des rêves perdus et non pas des sourires. Voilà ce qui se passe quand on prépare trop vite une émission. On va se rattraper, Christina, avec vous, avec tout votre savoir. C'est à votre tour, cette fois, de nous parler maintenant de ce fameux débat, la Katharevousa, par rapport à la démotique, donc à la démotiki, la langue puriste par rapport à la langue un peu plus populaire. Donc, pour faire court, la langue littéraire plus proche du grec ancien, parlée de plus en plus, je crois, plutôt écrite par les plus lettrés, versus la démotique, la langue plus populaire. Est-ce que c'est un sujet qui déchaîne les foules encore aujourd'hui?
Alors oui, justement. Une des questions qui a le plus préoccupé la société grecque depuis les commencements du XIXe siècle et depuis la constitution du nouvel État grec était, c'est ce qu'on appelle en grec, « toglossikos zêtema », la question linguistique. Il s'agit d'un débat intense concernant la langue avec laquelle l'hellénisme devrait s'exprimer. Les réponses données autour du sujet en question peuvent se regrouper autour de deux pôles fondamentaux qui constituent les dipôles entre le démotique et la katharevousa.
Alors, le démotique, justement.
C'est quoi le démotique? Alors, le démotique, c'est la langue vivante, la langue vernaculaire, la langue diffusée oralement, la langue telle qu'elle a évolué depuis le grec ancien. Cependant, cette langue n'est pas uniformément parlée dans la région hellénophone du petit État grec, mais aussi de l'Empire ottoman. Et cette qualification ne prend pas en compte le dialecte. Et l'autre pôle du débat, c'est la katharevousa, elle est basée sur une reproduction, sur une imitation du grec ancien. Le mot katharevousa est un néologisme. Le mot est calqué sur le mot grec katharos, qui signifie pur. Alors la katharevousa représente l'effort de purifier la langue des éléments étrangers, voire le mot turc ou vénétien. C'est la langue des intellectuels, la langue administrative et diplomatique. C'est la langue culturelle et c'est à ce titre qu'elle s'oppose à la langue et au dialecte parlé. Alors que le démotique était la langue vernaculaire de grec, la katharevousa exprimait la volonté d'adapter la langue aux exigences lexicales et morphologiques du grec ancien que la langue parlée avait perdue au fil des siècles. Citons alors quelques exemples concrets pour rendre plus clair le caractère de la katharevousa. La katharevousa, d'abord, a conservé, par exemple, le datif.
Ah oui, le datif, ça, c'est un des cas qu'on retrouve, par exemple, en allemand. À quoi il sert en katharevousa? En allemand, ça dépend des prépositions.
Alors, pour ceux qui connaissent le grec ancien, ils connaissent qu'en grec ancien, le datif avait plusieurs fonctionnements. Et du coup, on a commencé graduellement à remplacer le datif par d'autres tournures pour rendre la communication, la compréhension plus facile. C'est ce qui a fait qu'on a perdu le datif en grec moderne. Et la katharevousa a préservé l'usage ancien du datif.
D'accord.
Avec des prépositions comme en allemand à peu près.
Ok. Alors donc oui, vous avez mentionné le datif. Est-ce que la katharevousa a conservé d'autres choses du grec ancien, d'autres éléments? J'imagine que oui.
Ah oui, de nombreux participes, plusieurs temps et modes de conjugaison du grec ancien, éléments que la langue vernaculaire avait perdu. Alors que le démotique utilise principalement des phrases plus simples, la katharevousa emploie souvent une syntaxe plus proche du grec ancien et crée des phrases plus complexes. Alors, en réalité, la présentation qu'on vient de faire est très schématique et simplifiée. Ces deux pôles comportent de nombreuses positions intermédiaires. Je parle de Paul, le démotique et la katharevousa. On se rend compte que le problème est bien plus complexe. Dans les camps conservateurs, on peut distinguer plusieurs niveaux qui varient considérablement entre des positions plus modérées et des positions plus extrêmes qui optent pour la reproduction intégrale de l'ancien dialecte attique. La katharevousa a été conçue à partir du 19e siècle par Avamadios Korais, comme une solution moyenne pour purger la langue grecque des influences étrangères, mais sans pour autant revenir intégralement en grec ancien.
On parle bien de purge, hein, pour purger la langue grecque des influences étrangères. Oui.
Alors pour Korais, il faut que la langue officielle du nouvel État grec se rattache à l'idéal antique. La katharevousa, la langue purifiée des mots turcs, est donc pure, vient s'opposer à la langue du peuple, à la langue vulgaire. Cette volonté de purification a conduit à des positions plus extrêmes. Le but alors de la katharevousa de Korais est de servir des solutions de compromis pour la lutte entre les archaïstes qui exigeaient les retours complets aux grec ancien et le moderniste.
Et alors, est-ce que cette division entre les deux langues est si récente?
Alors, en réalité, non. On a placé le problème au 19e siècle, mais les origines du débat remontent à bien avant. Le concept d'une version littéraire conservatrice du grec était présent depuis l'époque hellénistique. Vers le 1er siècle après Jésus-Christ, les attiquistes tentaient de réformer la langue en se basant sur le dialecte attique du 5e siècle. Il y avait toujours alors une tendance à un état de diglossie entre la langue littéraire attique et la langue parlée en constante évolution qui a finalement évolué vers les grecs démotiques. Les textes grecs médiévaux et les documents de l'Empire byzantin étaient presque toujours écrits en grec savant. Le débat a été ravivé au XVIe siècle. Et on peut dire alors que la création de la katharevousa de Korais était une déclaration officielle, est une normalisation de la forme savante du grec qui existait déjà, d'une manière ou d'une autre. Alors, qui était Korais alors? L'inspirateur de la katharevousa, c'est le principal représentant de l'occidentalisme en Grèce. C'est pour Adama Deskorai, c'est la langue est une condition nécessaire pour l'acquisition de l'éducation qui sera réciproquement la garantie de la liberté. À cet égard, Korais s'est identifié au mouvement de lumière en Grèce. Son travail était si respecté qu'il est considéré comme l'homme qui a exercé l'influence la plus importante sur les groupes opposés. Alors la Katharevousa est devenue la langue officielle du nouveau État grec en 1834, un mouvement inspiré par des espoirs d'ennoblissement et de correction du langage quotidien. À côté de son aspect vulgaire supposé, il y avait encore une autre raison politique et diplomatique d'exclure l'utilisation du démotique. En 1830, la population du nouvel État grec s'élevait à environ 800 000 habitants, mais à l'extérieur des frontières se trouvaient à moins 2 millions de personnes qui parlaient le grec, et ainsi que de millions de membres de l'Église orthodoxe grecque qui pratiquaient le culte en grec, mais qu'ils parlaient d'autres langues à la maison. Et à ce stade précoce de l'État grec, on était loin encore de savoir quel serait l'entendu de ces frontières et si la citoyenneté dépendrait de la langue, de la religion ou de la simple résidence. Il était reconnu que si les démotiques devenaient la langue de l'État, il aurait pu aliéner des millions de croyants orthodoxes qui ne parlent pas le grec à l'intérieur de futures frontières. Alors, comme on l'a déjà dit, parmi les partisans de la correction, on peut faire la distinction entre ceux qui souhaitaient la résurrection totale du grec ancien et d'autres qui croyaient avec Korais que cela était irréalisable, mais que les démotiques pouvaient quand même être corrigés. Le deux champs croyaient au pouvoir de la langue écrite de transformer la langue parlée. Il espérait que les formes pures pourraient remplacer naturellement les formes démotiques corrompues. Alors je mets entre guillemets le mot pur et corrompu. Et la langue parlée pourrait aussi porter à un niveau plus pur. Et le débat a culminé au fil des années et plusieurs érudits et représentants de la littérature ont été impliqués dans le débat.
Alors donc vous nous faites comprendre hein, qu'il y a eu et peut-être encore aujourd'hui un réel débat entre cette langue pure, la langue corrigée entre guillemets, avec de nombreuses personnalités qui ont pris part à ce débat. J'imagine qu'on peut pas présenter toutes ces positions, mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms quand même?
Alors dans les années 1880, le linguiste Jan Psicharis, qui est venu de Paris d'ailleurs, apparaît sur la scène. Psicharis a publié un livre en français intitulé « Questions d'histoire et de linguistique ». Et la même année, il a publié son manifeste intitulé « Mon voyage » pour exemplifier le démotique comme la langue écrite et parlée de tous. Influencé par son professeur à la Sorbonne, Saussure, il a mis davantage l'accent sur la langue orale courante plutôt que sur la langue écrite, celle qui est basée sur l'évolution historique. C'est en raison de ses opinions que Psicharis est considéré comme le père du démotique extrême. La particularité de Psicharis était sa vision non historique de la langue comme un produit qui n'est pas issu de l'évolution historique et qui ne devait pas se soumettre à la traduction écrite. Alors la controverse s'installe sur la scène nationale et des incidents éclatent en 1901 avec la traduction des évangiles en langue démotique. Ces événements, on a gardé le souvenir de ces événements sous le nom de Evangelica. Mmh. Et en 1903, avec la traduction d'œuvres classiques en démotique qui s'appelle Orestiaca, ces événements-là. Le partisan de la Katharevousa dénonce le défenseur du démotique en les appelant Maliari, le chevelu, Aguelei, vulgaire. Mmh. Et réciproquement, le soutien de la langue démotique surnomme leurs ennemis Glossamidores, le puriste, Scotadistes, obscurantiste, Archéoplicti, maniaque de l'ancien, on peut dire, ou Sidéritiki, conservateur.
J'aime bien les surnoms, les Grecs, quand c'est comme ça dans
ah
des
on a
débats.
De l'imagination.
Ouais, c'est ça.
Alors, la conséquence pratique de cette situation était une diglossie qui a perduré. La question linguistique est à l'origine de nombreuses polémiques au 19e et au 20e siècle, et n'est résolue qu'en 1976, lorsque le dumotique est finalement choisi comme la langue officielle. En 1976, le dumotique alors est devenu la langue officielle, et en 1982, Andreas Papandreou a aboli les systèmes d'écriture polytonique.
Ah, le fameux. Non, c'est en 1982 qu'on abandonne donc officiellement ces quelques héritages du grec ancien. Moi, je sais que c'était vraiment compliqué pour moi, qui suis pas une native de là-bas, de pouvoir comprendre tout ça, les esprits, les accents aigus, les graves, les circonflexes, comme il y en avait en grec ancien. Donc oui, il faut préciser quand même aux auditeurs qu'il ne reste plus qu'un seul accent écrit, en tout cas en grec moderne. Parce que le tonique, ça c'est une autre histoire à l'oral, la prononciation, ça c'est effectivement compliqué pour des Français. Mais alors les accents à l'écrit, par contre, c'est facile, il reste plus que l'accent tonique. Donc à l'écrit, on l'écrit exactement sur la lettre qui porte l'accent tonique dans le mot. Il y a quelques rares exceptions, je crois, Christina, comme les mots monosyllabiques qui sont ou non accentués à l'écrit pour les différencier entre eux quand ils changent de sens. Par exemple, « i », avec la lettre « it », sans accent, c'est l'article défini, féminin singulier, un autre « la », mais avec un accent, il devient le « ou », alors qu'il se prononce exactement, je crois, de la même façon. Il n'y a pas de subtilité par rapport à ça.
Oui, il faut montrer quand même l'intonation à l'oral pour comprendre la différence. Mais oui, ça prononce de la même façon. Alors, à propos de l'écriture, parce que vous avez évoqué l'écriture, justement, à côté de ces débats, il y a aussi une autre question qui se pose, à savoir la façon dont le grec moderne s'écrivait. Le sujet s'est posé surtout pour le démotique, puisque le modèle de la Kafarevoussa reproduisait les systèmes anciens. La Kafarevoussa applique le principe de l'orthographe historique, à savoir l'écriture à la base de l'orthographe ancienne, telle qu'elle a été établie lors des périodes hellénistiques romaines et byzantines. Alors, on peut encore soulever un débat ici. Il y a ceux qui rejetaient le principe historique. Depuis les commencements du XIXe siècle, il y avait des érudits qui soutenaient que le grec moderne devrait abandonner l'orthographe historique et devrait se représenter à la base d'une écriture phonétique. Dans le cadre de cette position, on peut faire la distinction entre une simple écriture phonétique et une autre position plus extrême, qui proposait la translittération même de la langue grecque à la base de l'alphabet latin. Plusieurs propositions ont été faites, plus ou moins cohérentes, systématiques et méthodiques, qui proposaient un système d'écriture qui abandonnait complètement l'orthographe ancienne, un système alors dénoué du principe historique. Dans ce cadre, alors, même la translittération totale de la langue grecque à la base de l'alphabet latin a été proposée.
Donc si je comprends bien, c'était vraiment une position qui amenait complètement à l'abandon total de l'alphabet grec.
Oui, oui, oui. Il y a des érudits qui ont soutenu ce projet. Et, alors ces érudits affirmaient que de telle manière, le pays pourrait rejoindre le club de pays développés de l'Europe.
Ils voyaient ça un peu comme un handicap, cet alphabet.
Oui, d'une façon. Ils soulignaient les avantages pratiques, éducatifs dans tel système. Pour confronter les éventuelles oppositions, il soutenait que l'alphabet latin provenait lui-même de l'alphabet grec et que la nation grecque n'a jamais perdu son identité, ni quand il a abandonné le calendrier occidental, ni quand il a remplacé le système d'énumération grecque par le système arabe. Le projet quand même a connu une opposition très très forte et a été vite abandonné. Et de l'autre côté, on a ceux qui optent pour le principe historique, alors le principe, l'orthographe ancienne. Le principe historique de l'orthographe a été soutenu principalement par Chazidakis. Il se positionne alors en faveur de l'orthographe historique. D'après Chazidakis, l'orthographe historique constitue un élément de civilisation qui distingue les langues et les peuples avec une production littéraire importante telle que sont le grec. Avec l'orthographe historique, la continuité et l'unité de la langue grecque ne sont pas rompues et ils sont mis en évidence. D'ailleurs, la langue grecque n'a pas subi une évolution très importante, de sorte que le grec moderne peut être représenté avec la même orthographe que le grec ancien. Alors finalement, le grec moderne a adopté une orthographe historique simplifiée. Le linguiste Manolis Theodophilidis a fait une proposition complète, achevée par tous les aspects, de l'orthographe du grec moderne. La langue qui a prévalu alors, c'est la néolinique kini, essentiellement la langue vernaculaire, avec quand même plusieurs éléments de la Kafarevus. Alors, il ne faut pas oublier que la question de la langue a pris vite de dimensions politiques. Le parti communiste plaidant pour la langue du peuple contre les conservateurs.
Évidemment, la politique est toujours là en Grèce aussi.
C'est par une décision alors politique que Karamanlis décide l'adoption de la néolinique kini à tous les niveaux de l'enseignement et l'abolition du système polytonique par les socialistes Papandreou. En Grèce, alors, la langue est une affaire politique parmi autres. Alors, au stade actuel, il faut accepter que les deux options, la langue savante et la langue parlée, font partie du patrimoine néolinique et nous devons les considérer sans passion et avec la même intention.
Merci Christina, c'était vraiment très enrichissant. Moi-même, pourtant, je baigne dedans depuis quelques temps, j'ai appris plein de choses. Le temps file, on a même sacrifié une musique pour pouvoir écouter tout ce que vous aviez à nous dire, Gabriel et Christina. Merci beaucoup.
Ah, merci à vous.
J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans les studios pour un autre sujet. On va se quitter avec le dernier titre que vous avez choisi, Gabriel, qui s'appelle Tithello. Et je vais quand même juste vous rappeler les deux gros événements du mois de juin culturel. Le groupe, le collectif Liman, il sera en concert au Centre culturel Le Mandapa le 21 juin pour la fête de la musique et ce sera le concert de clôture du Passeport pour la Grèce qu'on a accompagné tout au long de cette année ici sur IDLN. Et puis également Monica Cabasele qu'on a reçue la semaine dernière sera en concert le 22 juin au studio de l'Ermitage pour présenter son nouvel album qui s'appelle Gréco-Futurisme. Merci encore à vous deux, bonne soirée à tous.
Merci.
Et puis on se retrouve en juillet, alors certainement pour une émission beaucoup plus musicale, à moins que j'ai des invités exceptionnels comme vous qui puissent venir dans l'émission. À bientôt, Kalo bravi, yassas.
Kalo bravi.
Δεν θέλω του γυαλού το λάμπρο φέγγισμα. Δεν θέλω του γυαλού το λάμπρο φέγγισμα. Που δείχνεται αστρομέ του ήλιου τη χάρη. Θέλω να δίνω φως από τη